est 18h. Le journal, Ludovic Piétenu, bonsoir.
Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. La polémique autour du burkini gagne du terrain avec une troisième municipalité qui interdit ce vêtement de bain intégral considéré comme un signe religieux trop ostentatoire dans le contexte qui est celui de la France en ce moment. Ce sont les arguments des maires de ces trois communes du sud de la France et la justice pour l'heure en confirme la légalité. Commentaire à suivre du président de la Ligue des droits de l'homme, analyse des réactions politiques avec Christine Monclin. La vie étudiante plus chère de 10% en 5 ans, 1,2% en un an. Le gouvernement répond que ce n'est pas plus que l'inflation que subissent tous les Français. Une fin de non-recevoir qui ne convainc pas le syndicat UNEF à l'origine de l'étude. À l'étranger, la réélection d'Edgar Lungu en Zambie, ça s'est joué à quelques milliers de voix, nous dira Sébastien Hervieux à Lusaka. Et puis direction Hong Kong à la fin de ce journal. 2 ans après ce qui avait été surnommé la révolte des parapluies, 3 militants pro-démocratie échappent aujourd'hui à la prison. 3 maires de France prennent des arrêtés contre le port du burkini sur les plages de leur commune. 3 arrêtés municipaux en l'espace d'une dizaine de jours. Le dernier, ce matin, en Corse, à Cisco, après la violente bagarre de samedi soir dans ce village près de Bastia. Une bagarre dont le burkini serait à l'origine. 3 véhicules incendiés, 5 personnes blessées. L'intervention d'une centaine de policiers et de gendarmes a été nécessaire pour ramener le calme. Le 28 juillet dernier, c'est David Lisnard, le maire de Cannes, qui était le premier à interdire ce vêtement de bain intégral, sans qu'il n'y ait eu de litige ou d'affrontement particulier dans sa commune. Arrêté contesté depuis en justice par 2 associations et des particuliers, mais le tribunal administratif de Nice n'y a vu aucun problème. C'est inédit et la décision a surpris. Antoine Marette a joint Jean-Pierre Dubois, professeur de droit constitutionnel à Paris 11, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme.
Cette décision est extrêmement surprenante et j'imagine qu'elle sera corrigée en appel parce que je ne vois absolument aucune règle, ni constitutionnelle ni législative, qui interdise telle ou telle tenue dans un lieu public et notamment à la plage, sauf l'interdiction de dissimuler son visage depuis la loi de 2010, mais ici elle n'est pas en cause. Donc si les autorités administratives commencent à prescrire les tenues dans lesquelles nous nous baignons, je crains que nous soyons très au-delà de ce qu'il est possible d'admettre dans une démocratie. Donc, à mon avis, le juge de Nice a fait une interprétation, disons, extraordinairement idéologique et sans fondement juridique du droit français. Peu importe ce qu'on pense à titre personnel de ce genre de tenue, on a absolument le droit de se baigner habillé sur une plage. Et évidemment, ça n'a rien à voir avec le terrorisme ni avec le principe de laïcité.
Ce juge affirme également que dans le contexte d'état d'urgence et des récents attentats islamistes, le port d'une tenue vestimentaire distinctive peut être interprété comme n'étant pas qu'un simple signe de religiosité.
Je ne sais pas trop ce qu'il veut dire. Je ne sais pas si cette tenue est plus qu'un signe de religiosité. Je ne suis vraiment pas qualifié pour savoir ce qu'il y a dans la tête des femmes qui font ça. Il me semble que c'est probablement une interprétation rigoriste de l'islam, mais peu importe. Ce qui est scandaleux dans cette décision, c'est le lien qui est fait avec les attentats. Je pense qu'aucune personne sensée, que ce soit ses opinions politiques, ne peut faire un lien sérieux entre le port d'une tenue couvrante pour se baigner sur la plage et la commission d'un attentat terroriste, à moins que l'on considère que les musulmans sont tous terroristes. Et encore, même de cette manière, on frise cette fois-ci non seulement l'odieux, mais le ridicule. Et franchement, je n'arrive pas à imaginer que le Conseil d'État puisse couvrir une solution de ce type, parce que franchement, là, il n'y a strictement aucune règle. Donc c'est la vision qu'un juge se ferait de ce qu'il est de bon ton d'adopter comme tenue de bain dans une république. Et alors vraiment, le lien avec les attentats, c'est effrayant. Enfin, c'est la confusion mentale la plus totale. Je suis très inquiet, parce que même si probablement ce conseiller a des opinions très tranchées, c'est quand même terrible qu'une décision de justice, même rendue par un juge unique, en vienne à ce degré de délire. Ce n'est pas bon signe pour le climat.
Jean-Pierre Dubois, professeur de droit constitutionnel à Paris 11, président d'honneur de la Ligue des droits de l'homme, répondait à Antoine Marette. Ce débat, cette polémique estivale qui, précisons-le, fait doucement sourire les éditorialistes de la presse étrangère si elle ne donnait pas lieu à des affrontements. Ce débat suscite en France de nombreuses réactions dans la classe politique. C'est, Christine Monclin, la surenchère, voire l'outrance.
Yeah. Oui, et au-delà des réseaux proches de l'extrême droite qui ont sans doute foisonnent de propos plus qu'outranciers, eh bien le principal dérapage enregistré aujourd'hui nous vient finalement des républicains. Écoutez plutôt, des barbares islamistes armés jusqu'aux dents. Ces mots figurent noir sur blanc sur le communiqué officiel de la Fédération Les Républicains de Haute-Corse. Alors pour l'instant, aucun démenti ou prise de distance de la part du parti de Nicolas Sarkozy que nous avons évidemment sollicité avec ces propos. Même le Front National local, dont des membres ont participé à la manifestation bastiaise d'hier, ne va pas aussi loin. Il dénonce un danger communautariste croissant et surtout l'ambiguïté d'une majorité d'élus. Sont visés les nationalistes corses accusés par le FN d'être, je cite, des immigrationnistes avec leur concept de communauté de destin. Sachant que le parti de Marine Le Pen, qui est souvent très fort aux élections nationales en Corse, se retrouve toujours doublé par les nationalistes aux scrutins locaux, ce qui accréditerait, dit le FN, la thèse d'un double langage. Ces néo-nationaux, comme on les appelle, dont le chef de file est Gilles Simeoni, le président de la région, multiplient pour leur part les appels au calme et au vivre ensemble. Mais pourtant, comme après les incidents de Noël, ils ne condamnent pas fermement les propos parfois racistes que l'on a pu entendre hier lors de la manifestation de Bastia. Quant au gouvernement, eh bien on peut parler d'embarras, difficile en effet d'apporter son soutien à tel ou tel parti, d'autant que les faits ne sont pas encore clairement établis. Le gouvernement s'en tient donc au communiqué de Bernard Cazeneuve samedi soir qui appelait chacun à la responsabilité et là non plus pas de condamnation des slogans racistes publiquement prononcés hier à Bastia. Le ministre de l'Intérieur qui est sur tous les fronts cet été n'a pas prévu à ce stade, nous dit son cabinet, de se déplacer en Corse.
Christine Monclat, Alain Juppé, le maire de Bordeaux et candidat à la primaire de droite, a choisi en ce jour de l'Assomption de s'afficher aux côtés des chrétiens pèlerinage à Lourdes. Il apporte, je le cite, sa fidélité et son soutien aux catholiques de France après l'attaque du prêtre à Saint-Étienne-du-Rouvray, attaque dont il sera question après-demain au Vatican. Le pape François offre une audience au président François Hollande. Trois semaines après cette attaque, en ce 15 août, la sécurité a été renforcée, notamment autour des 25 000 pèlerins de Lourdes et des 15 000 visiteurs au Puy-en-Velay en Haute-Loire. Idem en ce moment même dans le centre de la capitale avec une procession traditionnelle au départ de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une rentrée 2016 à venir plus dure financièrement pour les étudiants, c'est le constat que formule le syndicat UNEF dans son rapport annuel sur le coût de la vie étudiante. Une augmentation de près de 10% en l'espace d'un quinquennat depuis 2012, à cause des loyers surtout qui augmentent dans 15 villes universitaires, mais aussi les transports, toujours plus chers. Désormais, Marion Chantreau, la moitié des étudiants cumulent un travail avec les études.
C'est le cas d'Agathe, 22 ans, en fac d'histoire géo à Dijon. Boursière, elle touche 100 euros par mois. Son loyer lui en coûte 400. Pour s'en sortir, elle a trouvé un boulot alimentaire.
Je suis aide à domicile. Je fais ça toute l'année, que les week-ends. Même en travaillant, des fois, c'est short, quoi. Comme travail, c'est épuisant, donc gérer la fac à côté, rien que ça, c'est un challenge. Je n'ai pas compté le nombre de nuits blanches que j'ai fait tout au long de ma licence pour réussir à tout faire. Du coup, là, je suis en train d'essayer d'obtenir un prêt, même avec un bon cautionnaire, c'est compliqué quand même. Pour prévoir les 4 prochaines années, parce que j'ai concours d'enseignement dans 2 ans, ça serait bien si je ne suis pas obligée de travailler à côté.
12% des étudiants à l'université ont recours à des prêts pour financer leurs dépenses. S'endetter pour pouvoir étudier, un modèle anglo-saxon que l'on refuse, rétorque Alicia Bienfait de l'UNEF à Bordeaux. Bordeaux, ville universitaire où les loyers augmentent le plus en cette rentrée. Près de 5% de hausse, dénonce le syndicat étudiant.
Il n'y a que 10% des étudiants qui sont logés en cité universitaire à Bordeaux. Et donc beaucoup sont obligés de se tourner vers le parc privé. Et dans ce parc privé-là, il n'y a pas d'encadrement des loyers. Donc malheureusement, ils font face à des prix qui frôlent les 500 euros par mois et c'est extrêmement compliqué. La bourse maximale que peut toucher un étudiant qui est en difficulté, c'est 550 euros par mois.
Le logement représente plus de la moitié du budget étudiant. Les loyers parisiens élevés ont conduit Charlotte à rester habiter Rouen alors qu'elle étudie l'audiovisuel à la Sorbonne. 1h30 de train pour rejoindre la capitale chaque matin à la rentrée. Elle fera avec.
Dans la journée, je pense que je vais passer un minimum de 4 heures dans les transports. En qualité de vie, c'est dur, mais c'est une économie et Paris, les loyers dans cette c'était pas envisageable. Je travaille environ entre 3 et 5 mois par an. La fin de mois, elle est pas facile des fois. On va dire que je mange souvent des pâtes.
À moins de 9 mois de l'élection présidentielle, l'UNEF réclame un plan de vie étudiante ambitieux et une refonte de la protection sociale étudiante.
Marion Chantreau, le ministère de l'Éducation nuance cette étude en affirmant que l'inflation ressentie par les étudiants en cette rentrée est proche de celle ressentie par les ménages. Chacun doit donc faire un effort, semble-t-il, et le gouvernement estime estime avoir beaucoup fait depuis 2012 en matière de frais de santé, de restauration et la construction de plus de 20 000 logements universitaires. Réélection en Zambie, pays d'Afrique australe, du président sortant Edgar Lungu. 4 jours après le scrutin, le chef du Front patriotique obtient de justesse la majorité absolue. Il y a 1 an et demi déjà, il l'emportait sur son rival, l'opposant Hichilema, de 28 000 voix. Là, la victoire s'est encore une fois jouée d'un rien. À Lusaka, correspondance de Sébastien Hervieux.
Explosion de joie chez les uns, visage fermé chez les autres, ce fut à nouveau une grosse déception aujourd'hui pour les partisans du chef de l'opposition zambien, Kainde Hichilema. C'était la 5e fois qu'il se présentait à une présidentielle. Alors 18 mois après un premier affrontement lors d'une élection présidentielle intérimaire suite au décès du président Michael Sata, la défaite est une fois de plus rageante pour l'opposant. Il ne lui a manqué que quelques milliers de voix pour pousser le président sortant, Edgar Lungu, à un second tour inédit. Celui-ci, réélu pour un mandat de 5 ans, obtient 50,35% des voix contre 47,63% pour son rival. Alors l'opposant ne compte pas en rester là, il l'a dit tout à l'heure. Il va déposer un recours devant la Cour constitutionnelle pour annuler le scrutin. Pour lui, c'est une évidence, il a été victime d'une fraude organisée par le parti au pouvoir, le Front Patriotique, avec la complicité de la commission électorale. Une accusation fermement démentie par celle-ci. La question de dorénavant, c'est de savoir si M. Hichilema aura suffisamment de preuves pour convaincre les sages zambiens. Dans tous les cas, le chef de l'opposition avait déjà dû faire campagne dans un contexte d'intimidation et de violence inhabituelle en Zambie. 3 de ses partisans ont été tués, la police a entravé à plusieurs reprises la tenue de ses rassemblements, les médias pro-gouvernementaux ont mené une couverture à charge et les autorités ont même fermé le plus grand journal indépendant.
Sébastien Hervieux en Zambie. Au Yémen, c'est une nouvelle fois un hôpital qui a été la cible de frappes. Médecins sans frontières y travaillent depuis le début du conflit, il y a plus d'un an. Et c'est cette ONG qui révèle l'information. Ces raids de la coalition emmenée par l'Arabie Saoudite ont fait cet après-midi 6 morts et 20 blessés selon un premier bilan. Ces dernières 24 heures, près de 70 civils tués dans des bombardements du régime syrien, mais surtout de son allié russe. Frappes qui ont visé les 2 provinces du Nord, Idlib et Alep, et puis toujours dans cette zone à la frontière avec la Turquie, précisément au passage frontalier d'Atmé, un attentat suicide hier soir a visé un bus de rebelles syriens, des soldats qui se dirigeaient vers Alep pour le combat, attaque revendiquée tout à l'heure par l'organisation État islamique. Le bilan est d'au moins 32 morts. Il y a quelques jours, le président turc Erdogan, à nos confrères du Monde, dans une longue interview, se demandait quand les Européens comptaient exempter les ressortissants turcs de visa. C'est une contrepartie à l'accord négocié au printemps avec l'Union européenne. Et bien le président turc fixe le délai de cet ultimatum au mois d'octobre et se fait donc ce soir plus précis avec les Européens. Il y a tout juste 2 ans, Hong Kong vivait la révolte des parapluies, des manifestations monstres pro-démocratie. 3 leaders de l'époque, aujourd'hui à la tête d'un parti politique, étaient jugés et risquaient 2 ans de prison. Mais le verdict est finalement beaucoup plus clément. Correspondance à Pékin d'Angélique Forget.
C'est un soulagement pour les 3 jeunes militants. La juge en charge du dossier a observé qu'ils n'avaient aucun antécédent judiciaire et que leur motivation était politique et sociale. Pour la magistrate, il aurait donc été injuste pour les prévenus qu'une peine dissuasive leur soit imposée en raison d'un climat politique. Joshua Wong, 19 ans, figure la plus emblématique de la révolte des parapluies, ainsi que Nathan Lowe, autre tête d'affiche du mouvement, écope respectivement de 80 et 120 heures de travaux d'intérêt généraux. Le 3e étudiant à avoir été jugé, Alex Cho, a quant à lui été condamné à 3 semaines de prison avec sursis. Tous les 3 étaient poursuivis pour rassemblement illégal. En septembre 2014, ils avaient escaladé avec d'autres étudiants d'immenses barrières métalliques pour pénétrer dans la cour du siège du gouvernement local hongkongais. Leur action avait déclenché des manifestations encore plus importantes. Des milliers d'étudiants s'étaient réunis au cœur de la ville pour réclamer des élections libres pour la désignation du gouverneur de la cité-État, alors que de plus en plus de Hongkongais dénoncent la mainmise de Pékin sur l'ancienne colonie britannique. Les peines prononcées aujourd'hui vont permettre à Joshua Wong et Nathan Lowe de poursuivre leur lutte pour la démocratie au sein de leur parti politique, Democisto, créé en avril dernier. Dans 3 semaines, des élections législatives se tiendront à Hong Kong. Nathan Lowe s'y est porté candidat.
Correspondance à Pékin, signée Angélique Forger. Le temps de demain, mardi 16 août 2016, toujours estival, mais nuance Météo France, l'ambiance deviendra plus lourde sur une grande moitié sud du pays. Ailleurs, c'est un ciel clair ou légèrement voilé. Température demain matin, 13 degrés à Lille, 16 à Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, 18 degrés à Toulouse et Ajaccio, 20 degrés à Marseille. Édition réalisée avec François-Charles Demergue. Prochain journal, 22h, Sébastien Berriot.